Parashat Vayikhi. Donc on va, ce Shabbat, on va terminer le Sefer Bereshit. C'est-à-dire on va terminer ce Sefer dans lequel on a les éléments qui vont nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe dans la partie qui commence avec le Sefer Shemot, c'est-à-dire avec la naissance d'un clan d'Israël qui va se sortir d'Égypte, l'Égypte étant ce lieu d'esclavage, l'esclavage étant une forme faible de mort. Là, c'est toujours la notion de galoute et plus fortement de galoute plus esclavage est toujours une forme de mort, comme on voit par exemple dans le fait que quand quelqu'un a tué A a tué B, alors si les conditions sont satisfaites, il est passible de mort. Mais s'il a tué par le Shogeg, il a tué par inadvertance, alors il va en galoute, c'est-à-dire la forme faible de la forme de mort. Et donc les Bnei Israël sont arrivés en Égypte et finalement ils sont. Ça va pas encore être dit dans Bereshit, complètement, mais ça sera dit dans les premiers mots de Parshat Shemot. C'est-à-dire que l'esclavage en Égypte, c'est à la fois la fin d'une certaine façon de vivre selon la Torah, la façon qui était la façon des Avot, c'est-à-dire la façon de vivre selon la Torah sans qu'on leur ait donné la Torah. Les Avot n'ont pas reçu la Torah. Les Avot ont produit la Torah. C'est essentiellement dit sur Avraham Avinu. Comment est-ce que Avraham Avinu, dont on dit qu'il a accompli toute la Torah sans qu'elle lui ait été donnée? Alors, comme vous savez, on répète chaque année, mais d'Avraham Avinu, on dit qu'il avait ce qu'on appelle Klayot Yoratzot. Littéralement, ça veut dire que les reins d'Avraham Avinu lui disaient, lui donnaient Eitsa, il lui donnait les bons conseils pour vivre selon la Torah. Comment est-ce qu'il faisait ça? Il y a un passouk qui dit Rabot marchavot belev ish, va'atzat Hashem hi takum, qu'on dit dans la prière du matin. Ça veut dire, quand quelqu'un réfléchit à un problème, en fait, il lui vient une montagne d'idées. Très souvent, par exemple, c'est pas possible, en tout cas très très difficile, de savoir quelle était la première pensée qui nous est venue quand on a réfléchi à un certain sujet, parce que ça va tellement vite, il y a une espèce de tri des pensées, et on atterrit sur une pensée ou sur un ensemble de pensées qui nous apparaissent. Bon, ça c'est possible. Et les autres, on les a, en fait. Tamponné, impossible. Bien entendu, dans les pensées qui nous viennent, il y a la bonne pensée, parce que on ne peut pas nous demander de savoir ce qu'il faut faire si par définition, la pensée ne nous vient jamais. La bonne pensée ne nous vient pas. On dit du Gaon de Vilna que il a écrit, alors je ne suis pas tellement sûr que ce soit vrai, mais bon, je vous dirai après pourquoi ce n'est pas tellement évident que ce soit vrai. Mais enfin, la chose en elle-même est très intéressante. Le Gaon a dit que si quelqu'un se trouve dans une situation où il ne sait pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas, je sais pas quoi faire. Alors voilà le conseil du Gaon de Vilna. Installe-toi et étudie la Torah quelques heures. Et ensuite, reprends la question. Et la première pensée qui te vient à ce moment-là, c'est la bonne. Alors j'ai entendu d'un de mes maîtres, Rav Olbe, qui racontait de son propre maître, Rabbi Rucham Leibowitz, que Rabbi Rucham, il a enseigné et il a dit, j'ai essayé cette Eitsa, ça ne marche pas. Et Rabbi Rucham a fait tout un zman de shiurim pour expliquer pourquoi ça ne marche pas. Bon, Bekitsour, ça, la raison essentielle, c'est la suivante. Mais bon, c'est la raison pour laquelle je pense que ça, c'est probablement pas comme ça, en tout cas, que le Gaon de Vilna avait dit, mais il a expliqué que le Gaon de Vilna, il était tellement imbibé de Torah que naturellement, quand il pensait à quelque chose, il lui venait ce que la Torah demande. Dans cette situation-là. Alors, il pouvait se passer qu'il a été troublé, il a été dérangé. Et donc, il suffit de se remettre à l'étude pendant quelques heures pour retrouver son état normal. Et à ce moment-là, effectivement, il produit la bonne solution. Mais nous, disait Rabbi Rucham, nous, on n'est pas imbibés de Torah comme ça. Donc nous, il ne suffit pas d'étudier quelques heures ou quelques jours pour se retrouver dans une situation où on va produire par nous-mêmes directement la bonne idée, la bonne solution au problème. Alors là, si on explique ça comme ça, alors je ne comprends pas ce que le Gaon a dit. Parce qu'a priori, si le Gaon a dit une chose pareille, il a donné un conseil au commun des mortels, ou même, disons, au Talmidei Chachamim. Mais si ça ne marche que pour lui, alors ce n'est pas un enseignement. Si ce truc-là ne marche que quand on est le Gaon de Vilna, d'abord, c'est d'un intérêt très limité. Et je ne pense pas que le Gaon disait les choses, enseignait les choses qui ne valaient que pour lui. Donne un autre exemple, on dit qu'un jour, Reb Chaim de Brisk, qui a donc révolutionné le limoud de la Gemara, un jour on a discuté de quelque chose et Reb Chaim a dit, il a apporté une solution et quelqu'un a dit, il y a un Tosfot qui dit le contraire de ce que tu dis. Alors on dit que Reb Chaim a pleuré. Là non plus, je suis pas sûr que ce soit vrai. Hein. Reb Chaim a pleuré. Alors on lui a dit, il faut quand même pas exagérer, ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Il a dit, je pleure pas parce que je me suis trompé, je pleure parce que j'ai été capable de dire une svara qui est contraire à Tosfot. Je ne devrais pas pouvoir produire une svara pareille. Ça c'est possible, mais bon, je sais pas, c'est vrai. Tout ça c'est pour dire que chez Avraham Avinu ça fonctionnait de la manière suivante. Pourquoi est-ce qu'on a pris l'image du Rhin? Le Rhin, comme tout le monde sait, le Rhin, c'est un filtre. Et donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y avait chez Avraham Avinu un filtre qui lui permettait de trier les solutions qui venaient à son esprit dans toutes les situations. Et c'était un filtre suffisamment puissant pour ne laisser passer que la bonne solution. Ça veut dire qu'Hachem lui avait donné un privilège d'avoir effectivement cette capacité de filtrer et ne garder que la bonne solution. En tout cas, quoi qu'il en soit, les Avot, et probablement les Shvatim encore, leurs enfants, et peut-être encore une génération, je ne sais pas, ou une ou deux générations, ont pratiqué une Torah qui était probablement la Torah qu'ils avaient reçue d'Avraham Avinu. Je ne sais pas en vérité qu'est-ce qu'on fait Yitzhak et Yaakov. Est-ce que eux aussi ils avaient un filtre pareil? Je ne connais pas de textes qui disent la même chose. Et est-ce que chez eux, est-ce qu'ils ont développé d'une autre manière l'enseignement d'Abraham, ou est-ce qu'ils ont simplement continué de prendre cet enseignement d'Abraham? En tout cas, c'est une Torah qui n'a jamais été donnée de l'extérieur, en tout cas. Mais cette solution-là, elle a échoué. On s'est retrouvé esclave en Égypte, c'est-à-dire on était dans une situation où, comme dit Rambam, on avait pratiquement tout oublié de l'enseignement d'Avraham Avinu en Égypte. Seule la tribu de Lévi en savait encore un petit peu quelque chose. Mais entre autres, les Bnei Israël à cette époque, quand ils ont été dans ce galout, ils ont arrêté de pratiquer la seule mitzvah qui leur avait été donnée, c'est la mitzvah de la circoncision, de la Mila, qui est la seule mitzvah qui a été donnée comme telle à Avraham Avinu. Là, Avraham Avinu, il n'a pas trouvé à faire la Mila de lui-même. Hachem lui a ordonné de faire la Mila. Et les Bnei Israël ont arrêté de pratiquer cette mitzvah en pensant que ça allait les rapprocher des Égyptiens en abolissant la différence qu'il y a. Comme vous savez, il y a un midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël, vous voulez abolir la dif de votre côté, abolir la différence qu'il y a entre vous et les Égyptiens. Alors, ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui vont introduire cette différence. Et le Midrash dit que un Égyptien, quand il croisait un Hébreu, il était tellement dégoûté qu'il vomissait. Donc ça marquait la différence vu du côté égyptien. On raconte la même chose quand en Allemagne, les Juifs ont décidé de fonder le mouvement réformé. Rabbi Israël Salanter, quand il a appris qu'ils avaient décidé que, par exemple, on pouvait tranquillement se marier avec des conjoints non juifs. Rabbi Israël a dit, aujourd'hui les juifs ont décidé qu'ils pouvaient se marier avec les non juifs. Demain, c'est les goïms qui vont interdire de se marier avec les juifs. Et la fondation du mouvement en question, elle a eu lieu dans une ville très célèbre en Allemagne, qui s'appelle Nuremberg. C'est dans cette ville de Nuremberg que les Allemands ont décrété un interdit pour les Ariens d'avoir des rapports avec les Juifs. Exactement comme le dit le Midrash en question. Donc les Bnei Israël, cette version-là de la vie juive, si on peut parler du mode de vie selon la Torah, cette version, elle a échoué. Et Donc, les Bnei Israël sont quasiment morts. Alors, la sortie d'Égypte, c'est la sortie de cette situation où ils étaient morts. Une partie des Bnei Israël, on verra ça la semaine prochaine, un cinquième, 20% des Bnei Israël ont accepté de sortir d'Égypte. C'est-à-dire, ils ont accepté de passer par un processus de sortir de la mort pour accéder à une forme de vie. Ça va être progressif. Ils vont d'abord sortir d'Égypte, sortir complètement d'Égypte avec Kriyat Yamsouf. Et 50 jours après être sortis d'Égypte, ils vont recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Ça, on verra la semaine prochaine. Ou un peu plus tard, même après. Qu'est-ce qu'ils vont vraiment recevoir à ce moment-là? Ce n'est pas a priori des mitzvot, parce que les mitzvot, ils vont commencer à en recevoir un peu avant, un endroit qui s'appelle Mara. Là, les Bnei Israël ont déjà reçu une dizaine de mitzvot et des mitzvot très importantes. Donc, on ne peut pas dire qu'au Sinaï, quand ils vont recevoir les mitzvot, c'est une nouveauté, ce n'est pas nouveau. Bien sûr, ils vont recevoir 613 au lieu d'une dizaine. Mais bon, disons que c'est une différence quantitative et pas vraiment qualitative. Et donc, quand on devra se demander, évidemment, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au Sinaï? Parce que la réponse, ça n'est pas, pour la première fois, on a reçu des mitzvot. Ça n'est pas vrai. On en a reçu avant. Bon, ça, c'est un travail qu'on devra faire dans le Sefer Shemot. On parle maintenant des derniers moments de la vie de Yaakov et de la survie jusqu'au moment où, effectivement, ils vont vraiment, d'une certaine manière, mourir. Pas complètement, pas biologiquement, mais spirituellement mort, quasiment. Et à ce moment-là, il faudra réfléchir et se demander, en fait, est-ce que d'avoir reçu la Torah, c'est une solution, enfin, c'est un plan B? Le plan A n'ayant pas fonctionné, dans la façon dont Avraham Avinu a pratiqué la Torah, ça c'est le plan A. Ce plan A, il n'a pas marché. Est-ce que nous vivons dans une solution qui est un plan B? Et en fait, si on va dans ce sens-là, il va y avoir par la suite un plan B prime ou C. Puisque quand les Bnei Israël vont faire le veau d'or, c'est-à-dire quasiment au moment où ils reçoivent la Torah, ils vont faire quelque chose qui va entraîner Hachem à dire à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je vais détruire ce peuple et je vais recommencer un nouveau peuple avec toi. Ça veut dire, c'est terminé, c'est raté. Cette version-là n'a pas marché non plus. Alors, en fait, Moshe Rabbeinu a obtenu de continuer quand même cette version. Il a joué son va-tout quelque part. Il a dit à Hachem, ou tu pardonnes, ou tu peux m'effacer de ton sefer, je ne joue pas la suite. Je ne suis pas candidat. Bien sûr, je ne suis pas candidat à être un nouvel Avraham. D'accord? Il a dit à Hachem, tu as construit un clan d'Israël sur trois piliers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ça n'a pas marché. Que tu crois vraiment qu'en construisant sur un seul pilier, moi, ça va marcher? Donc, cette solution-là, elle n'a pas marché. Mais mon cher Rabbeinu a rattrapé les choses. Et quand il a rattrapé, Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui justement va rendre possible la continuation de ce modèle. Cette chose-là, ça s'appelle Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le moment où Hachem a pardonné le veau d'or. Il leur a donné des deuxièmes louchot, il a donné un deuxième exemplaire du Shem Hachem, comme on dit, Hachem, Hachem, Kel Rachum Hanoun, deux fois le Shem Hachem. Et il leur a dit comment il fallait prier après avoir fauté, justement, qu'il y a un Shliach Tzibour qui va dire les Shloshe Esrei Midot. Et Hachem a dit, et moi je pardonnerai. C'est un processus très étrange. Mais bon, il a donné un moyen. Et c'est allé tant bien que mal. Jusqu'à ce que ça échoue, lorsque Nebuchadnezzar a détruit le Beth Amikdash, il a exilé les Bnei Israël en Babel. Terminé. Seulement, ce n'est pas complètement terminé parce que de Babel, Hachem avait déjà dit que ça ne durait que 70 ans. Donc on a envisagé un retour. Le retour, donc, le retour, c'était plus exactement la même chose, mais c'était quand même un retour. C'est-à-dire, on reprenait la suite de ce qui avait été momentanément interrompu. Alors la reprise, elle n'est pas terrible, comme vous savez, il n'y a que 40 000 personnes qui sont revenues de Babel. Mais ils ont fini par construire un deuxième Beth Amikdash qui n'était que l'ombre du premier. Et puis on s'est reparti. Avec un Beth Amikdash qui redevenait le centre du clan Israël, bien que la majorité des Bnei Israël n'étaient pas dans le pays, étaient en Babel. En Babel, qui est devenue la Perse, parce que les Perses ont battu, les Perses et les Mèdes ont battu les Babyloniens. Donc là-bas, nous, on n'a pas changé d'endroit, on a seulement changé de maître, c'est-à-dire on était confronté à une autre civilisation. Et puis après les Perses, il y a eu Alexandre le Grand, il y a eu les Grecs. Et là, du coup, on a été confronté à un nouveau problème. On n'a pas été exilé physiquement. Mais à la limite, on n'était plus chez nous tout en étant chez nous. Le Beth Amikdash a été transformé en un temple grec jusqu'à ce qu'une bande de terroristes, une famille de terroristes, se rebelle contre l'establishment, et déclenche une guerre civile. Guerre civile qui a duré des années et qu'ils ont gagné, finalement. Et donc, on a nettoyé, repurifié et réinauguré le deuxième Beth Amikdash qui avait été nettoyé. Ça a donné Hanouka. J'ai oublié de dire que quand on était en Perse, sous l'Empire perse, on était confronté à la première tentative de solution finale de destruction de la totalité du clan Israël par un certain bonhomme qui s'appelle Laman. Et le clan Israël a été sauvé à ce moment-là par le fameux couple Esther-Mordechai. C'était une solution finale qui s'est soldée pour nous par zéro mort. Et après les Grecs, la famille en question qui s'était révoltée et qui a perdu beaucoup de ses membres dans cette guerre, guérilla, ils ont pris le pouvoir. Et ils ont pris la royauté aussi, contrairement à ce que les Chachamim leur ont dit, parce qu'ils étaient Kohanim, mais ils ont malgré tout pris le pouvoir, alors que vous savez bien que on ne peut pas être à la fois Kohen et Melech. Et malheureusement, 200 ans à peu près après, il y a eu la destruction par Titus, Vespasien Titus, du deuxième Beth-Amikdash et l'exil, cette fois-ci des Bnei Israël de nouveau, dans l'Empire romain, avec beaucoup, beaucoup de morts, avec des tentatives de révolte, Bar Kokhba, Bétard. Et puis après, bon, ce galout de Édom, le quatrième galout, ben on est encore dedans. Il a pris toutes sortes de formes, parce que Ésav prend toutes sortes de formes. Donc tout ça va se mettre en place avec des révolutions, en fait. Il est clair que il a fallu le génie de Rabbi Yochanan ben Zakkai pour inventer une forme de vie selon la Torah, alors que le Beth Amikdash n'existait plus, ce Beth Amikdash qui était le centre autour duquel tout tournait. Et un jour, il a fallu apprendre à vivre sans le Beth Amikdash. Celui qui a osé penser cela et qui a mis les choses en place, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il faut savoir que ce n'était pas du tout évident, parce que le plus grand maître de la Torah orale que nous ayons jamais eu, c'est-à-dire Rabbi Akiva, il a dit au sujet de Rabbi Yochanan ben Zakkai, « Mi yegaleh afar me'enecha » Rabban Yochanan ben Zakkai, qui est-ce qui enlèvera la poussière de tes yeux? Rabbi Akiva pensait que c'était une erreur. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait réussi à se faire extraire, à s'extraire de Yerushalayim, qui était à ce moment-là assiégé par les Romains. Et il a annoncé à Titus, ou Vespasien, il a annoncé au général, il lui a annoncé qu'il était devenu empereur. Les Chazal disent que l'empereur lui a dit, tu peux, comme tu m'as apporté une très bonne nouvelle, tu peux faire trois vœux. Et c'est lui qui a demandé Yavne pour le Sanhédrin, lui qui a demandé la famille, enfin le fait qu'on sauve la famille du Nassi et un médecin pour un des tzadikim qui avait jeûné, etc. Et Rabbi Akiva, il pensait que c'était une erreur gigantesque et que Rabbi Yochanan ben Zakkai aurait dû demander aux Romains qu'ils lèvent le siège. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai ne l'a pas fait parce qu'il a pensé que ça allait recommencer après. Parce que la raison pour laquelle les Romains faisaient le siège, c'est qu'il y avait des Juifs qui s'étaient révoltés contre la domination romaine. Et que ces Juifs ont Ils voulaient absolument la guerre. Ils ont mis le feu à toutes les réserves de nourriture. Jérusalem avait de quoi tenir un siège très, très, très long. Mais ils n'ont pas pu le faire parce que ce qu'on appelle les zélotes en question, ceux qui voulaient absolument faire la guerre, ils ont mis le feu aux réserves pour obliger les gens à faire la guerre. Et Rabbi Yochanan enfin, il ne me l'a jamais dit, quoi. Je suppose que la raison pour laquelle Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a pas demandé qu'on lève le siège, parce qu'il savait que ça allait se reproduire, et cette fois-ci, on n'aurait pas obligatoirement la chance de demander quoi que ce soit. Alors vous voyez que bon, c'est rien moins que le plus grand maître de la Torah orale qui n'était pas d'accord avec la solution proposée. Ça suffit. Avec la solution proposée par Rabbi Yochanan ben Zakkai. Bon, tout ça pour vous raconter, pour que vous compreniez bien que ce qui va commencer là, qui a l'air de. Bon, ça a l'air bien. Mais on va droit dans le mur. Alors Yaakov, il est à la fin de sa vie. Et on commence par nous parler dans cette paracha qui parle de Vayechi Yaakov, de la vie de Yaakov. En fait, cette paracha-là, elle va parler de la mort de Yaakov. Mais avant de parler de sa mort, il y a quand même des choses qui doivent être dites. Yaakov va appeler son fils Yosef et il va lui demander. Ici, c'est la demande d'un père qui s'adresse à son fils et qui s'adresse à ce fils-là plutôt qu'à un autre, parce que ce fils-là, on peut penser qu'il aura la possibilité de faire ce que Yaakov va lui demander, ce que d'autres fils ne pourront peut-être pas faire. Yaakov va demander à être enterré en Eretz Israël. Yaakov est ici, il aura vécu 17 années en Égypte. Des années où il a bien vécu, en fait. Il n'était pas en Eretz Israël, mais il a bien vécu. Les Bnei Israël, quand toute la famille de Jacob est descendue en Égypte, à l'instigation de Yosef, ils ont été très bien reçus. Vous pensez, c'était la famille de celui qui avait sauvé l'Égypte, qui était à ce moment-là le vice-roi d'Égypte. Ils étaient bien reçus. Mais il y a eu une explosion démographique. Et les Juifs, auxquels Yosef avait dit de rester tranquille dans la province de Goshen, qui est une province dans laquelle on pratiquait beaucoup d'élevage, et ça dégoûtait les Égyptiens de s'occuper de ces problèmes-là. Donc, ils ont été tranquilles, les Juifs, là-bas. Mais bien entendu, ils sont sortis. Ils se sont répandus dans tout le pays. D'accord? Ils ont fait la République de Weimar. Des Juifs partout. Alors il a demandé à Yosef de l'enterrer en Eretz Israël, c'est-à-dire de le faire sortir d'Égypte pour l'enterrer à Hébron, pour l'enterrer dans Maratha Marpella. Et il lui demande et il présente ça comme. Il lui demande de faire avec lui Chesed ve'emet. Et nous, on va interpréter Chesed ve'emet comme étant aussi Chesed shel emet. Le Chesed, c'est la générosité. On peut très bien être généreux en pensant que cette générosité elle va inciter celui qui en bénéficie d'être généreux en retour. Donc avec, c'est une générosité avec un cheshbon, c'est-à-dire avec un, en pensant que bon, l'autre va me rendre quelque chose. C'est un chesed qui est une générosité investissement. Seulement quand tu fais de la générosité à l'égard d'un mort, ben c'est le cas de figure où tu attends rien parce que le mort, a priori, il peut pas te rendre. L'histoire du don et contre-don, ça marche plus avec le mort. C'est pour ça que ça s'appelle Chesed shel Emet. C'est un vrai Chesed. Et donc il lui demande, et Yosef lui dit, je ferai ce que tu m'as demandé. Mais dans la demande, Yaakov lui parle et il parle exactement de la même manière qu'Avraham avait parlé à Eliezer. Avraham avait demandé à Eliezer quand il l'a chargé d'aller chercher une épouse pour Yitzhak, il lui a dit Simna yatra tachat yerechi, qu'on traduit en général par mets ta main sous ma cuisse, en fait. Et c'est cette même expression que Yaakov utilise ici quand il s'adresse à son fils Yosef. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression? Comme vous savez, a priori, quand quelqu'un dit quelque chose, il est engagé par ce qu'il dit. Le oui de quelqu'un doit être un oui. Mais les gens ne se font pas obligatoirement confiance. Tu m'as dit oui, bon, alors je pense que je peux te faire je sais pas, confiance à 80%. Et puis, par exemple, quand il y a deux personnes qui se retrouvent en conflit, et qui vont au tribunal et A dit tu me dois 100 balles et l'autre dit non, je te dois 50 balles. Il faut croire. Ni l'un ni l'autre n'a de preuves. Et on va croire. Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on va faire si l'un dit tu me dois 100 balles et l'autre lui dit je te dois rien? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la Torah, elle a inventé. Ça pouvait exister ailleurs aussi, bien sûr. Ça, on l'a déjà vu à d'autres moments, mais la Torah, elle a pensé que on pouvait essayer d'obliger quelqu'un à donner plus de poids à sa parole. Et comment est-ce qu'on peut donner plus de de poids à sa parole? C'est en jurant. Jurer, d'après la Torah, ça veut dire mettre Hachem dans la boucle, en fait. D'accord? Un serment dans la Torah, c'est toujours un serment avec Hachem. En d'autres termes, c'est comme si la personne dit, je prends Hachem à témoin de que ce que je dis est vrai. Alors, comme il y a un interdit de prononcer le Shem Hashem en vain, alors il y a la plupart des gens ont une Yirat Shamaim qui fait qu'ils ne vont pas jurer en vain. Et donc, si quelqu'un jure, on dira bon, voilà, sa parole a plus de poids, et donc, c'est sur cette parole-là qu'on va s'appuyer, on va trancher dans cette direction-là. Et puis, puisqu'on est dans un processus de donner du poids à une parole, on a envisagé qu'on pouvait donner encore plus de poids. On peut imaginer que quelqu'un, donc ça existe, quelqu'un va jurer, pardon, et en même temps, il va tenir un Sefer Torah, par exemple. Donc c'est comme s'il disait, je jure par Hachem et je prends la Torah à témoin que ce que je dis est vrai. Et il n'y a pas seulement la Torah. Tout objet de mitzvah peut servir de, ça s'appelle, c'est nekitat chefetz, c'est-à-dire c'est le fait de prendre un objet, sous-entendu un objet de valeur qui m'oblige quand je peux pas me, c'est-à-dire vous n'allez pas faire, enfin vous. On va pas faire de grosses bêtises quand on tient un Sefer Torah. On va le poser d'abord. Donc, bon, c'est une façon de donner du poids, encore un poids supplémentaire. C'est le degré au-dessus du serment. C'est un serment avec Nekitat Hefetz, en tenant un objet. En fait, le seul objet de mitzvah qu'ils avaient à cette époque-là, c'est l'objet sur lequel il y avait la seule mitzvah qui leur a été donnée, c'est la Mila. Donc en réalité, quand il dit mets ta main sous ma cuisse, il veut dire par là, tu saisis mon membre en tant que Nekitat Hefetz, comme un objet, et tu jures. Donc, que Abraham fasse jurer Eliezer, bon, c'est pas tellement évident parce que Eliezer, c'est quasiment l'alter ego d'Abraham. Mais bon, peut-être qu'Abraham, il est conscient que Eliezer, il a une fille, qu'il voudrait bien que ce soit sa fille qui devienne l'épouse de Yitzhak. Ce qu'on comprend très bien, parce que la fille d'Eliezer, elle a été élevée de la même manière qu'Yitzhak, dans la maison d'Abraham. C'est la fille d'Eliezer. C'est une fille parfaite. Abraham va dire à Eliezer, c'est pas possible. Parce que Eliezer était d'origine cananéenne, et Cnan, il a été maudit par Noach. Donc Abraham a dit à Eliezer, tu es maudit, et nous, on est Baruch, nous, on est béni. On ne peut pas faire un chidouch entre un maudit, enfin, entre une maudite et un béni. C'est un peu spécial parce que par la suite, Eliezer va sortir de la malédiction. Mais à ce moment-là, il est maudit. Et donc, comme il y a une tentation d'Eliezer, éventuellement, de faire échouer l'opération aller chercher une femme dans la famille d'Abraham. Alors il l'a fait jurer. Mais ici, c'est Yaakov, il parle à son frère, à son fils. Et ce qu'il lui demande, c'est de l'enterrer en Eretz Israël. Et il le fait jurer. Après que Yaakov lui ait dit, jure-moi, Yosef lui répond, je ferai ce que tu m'as dit. Alors son père dit, oui, très bien, mais jure-moi quand même. Il a obligé son fils à jurer. Alors, vous savez probablement, parce que c'est toutes les années la même chose, vous savez probablement que ce serment va rendre l'opération possible, en vérité. Parce que, c'est dit un peu plus bas, il est clair que quand Yosef a dit à Paro que Jacob voulait être enterré en Eretz Israël. Paro, il était un peu déçu parce que je vous rappelle que quand Jacob est descendu en Égypte, on en était à la deuxième année de famine, deux des 7 années de famine. Et quand Jacob est arrivé en Mitzrayim, la famine a cessé. Et donc, il y avait des risques qu'on idolâtre Yaakov. Et puis ensuite, Yaakov, il savait ce qui allait se passer avec les Makot et il voulait pas être dans la terre d'Égypte. Et puis, il voulait être enterré avec ses ancêtres, avec Abraham et avec Yitzhak. Pardon? Parce qu'il va y avoir un moment où la terre, elle va être infestée. Et donc, lui, il voulait pas être dans cette terre-là qui va être infestée au moment des Makkot. Alors, Paro a dit, bon, d'accord. Alors, Yosef lui a dit, mais c'est moi qui vais aller enterrer mon père. Alors, Paro, il a dit, no way, exclu. Vous imaginez le bonhomme qui tient toute l'économie égyptienne dans sa main. C'est lui qui a tout organisé. Ce type-là, il sort d'Égypte, il s'allie avec les Hittites ou avec n'importe quel peuple, il rentre en Égypte et les Égyptiens, ils deviennent esclaves quasiment. Les gens, il connaît tout, il a tous les pouvoirs. C'est exclu de le laisser sortir. Alors Yosef a dit à Paro, il lui a dit, mais mon père m'a fait jurer. Alors Paro a dit, moi je suis l'empereur d'Égypte, j'annule tous les serments. Voilà, donc c'est fini. L'argument serment est tombé à l'eau. Mais il n'avait pas compté que Yosef était quelqu'un de très intelligent. Et en fait, je triche un peu parce que je ne vous ai pas dit qu'en réalité, il y avait une règle. Sachez, si un jour on vous propose le poste d'impératrice d'Égypte, en Égypte, pour être impératrice ou empereur, il faut connaître toutes les langues. Et donc, Paro était quelqu'un qui, pour être Paro, il devait connaître toutes les langues. Et quand tu deviens vice-roi, tu dois aussi connaître toutes les langues. Alors, à la veille de l'examen de Yosef, comme c'est dit dans Tehilim, c'est l'ange Gabriel qui a enseigné toutes les langues à Yosef. Et Yosef connaissait toutes les langues. Mais il a parlé avec qui on peut parler, comment on peut savoir qu'il connaît toutes les langues? Donc il parle avec Paro. Alors il parle toutes les langues. Ça devait être très marrant, bon. 70 langues. Et puis à un moment donné, Yosef, il commence à parler en Lashon HaKodesh. Et Paro, il comprend pas. Et donc, il s'avère que Paro est en fait un usurpateur, dans la mesure où il ne satisfait pas les conditions pour être un empereur d'Égypte. Il a fait jurer Yosef qu'il ne dévoilerait à personne que lui, Paro, ne savait pas le Lashon HaKodesh. Yosef a juré. Alors, quand Paro lui a dit, j'annule tous les serments, alors Yosef lui a dit, tu viens d'annuler le serment que je t'ai fait. Je peux donc dire à tout le monde que tu es un usurpateur. Alors Paro lui a dit, tu peux aller enterrer ton père. Et donc on comprend pourquoi Yaakov a obligé Yosef à jurer pour entrer dans ce problème-là. Et donc Yosef va aller finalement enterrer Yaakov à Hébron. C'est le premier paragraphe de la paracha. Et puis plus tard, à ce moment-là, Yaakov avait... Bon, il y a des problèmes, si vous voulez, parce que le passouk dit « Vayikrevu ». Ici, on va dire comme ça, en passouk, passouk kaftet, Vaïkrevu yemei Israël lamout. Les jours d'Israël, les jours de Yaakov Avinu, se sont approchés de la mort. Le Zohar, il demande. C'est quoi la Kavana ici? Ce n'est pas les jours qui sont approchés de la mort. C'est l'homme qui s'approche de la mort, mais ce n'est pas les jours. C'est le deuxième verset de la paracha, Kaftet. Et le Zohar répond, Kasher Adam niftar min haolam, lorsque l'homme meurt, Mevi'im et kol yamav lifnei HaKadosh Baruch Hu. On amène tous les jours de la vie de la personne devant HaKadosh Baruch Hu. Et HaKadosh Baruch Hu. Et HaKadosh Baruch Hu les juge. Est-ce que les jours étaient pleins de services d'Hachem? C'est-à-dire d'une véritable vie? Est-ce que les jours ont été vraiment vivants? Ou non? Si oui, alors c'est il entre dans l'Olam HaBa. Est-ce qu'on est en train de dire ici que le niveau de Yaakov va écrire vous Yemei Israël Lamut Ayamim Atzmam se sont rapprochés de l'Olam HaBa. C'est ça que dit le Zohar. C'est-à-dire les jours étaient pleins. Pardon?
Ce n'est pas le cas de tous les avocats.
Je ne sais pas. De Abraham, c'est sûr que ça s'appelle Baba Yamim. Il est venu avec les jours pleins. Je ne crois pas que l'expression existe chez Yitzhak Avinu, mais très certainement, ces jours étaient pleins aussi. C'est une autre façon de dire que les jours étaient pleins. Alors, ensuite, on a dit à un moment donné, c'est le chapitre suivant de. C'est toujours dans la première lecture, la première montée. Vayi achar achare advarim aele. Et on a dit à Yosef, iné avicha cholé. Voilà, ton père est malade. Sous-entendu ici, malade, ça veut dire qu'il va mourir. Alors Yosef a pris ses fils, ses deux fils, il a pris ses deux fils et le passouk dit « Et Menaché v'et Ephraïm ». Quand la Torah, quand Yosef prend ses enfants, il les prend dans l'ordre. Il prend d'abord l'aîné, Menaché, et après Ephraïm. C'est important. Alors, on a dit ça à Yaakov. On a dit, ton fils Yosef arrive. Alors, Yaakov s'est levé dans son lit pour le recevoir. Et alors, Yaakov commence à raconter à Yosef. Il lui dit, Quel chacun ira Elai, Belouz? C'est un des noms d'Hachem, Kel Shakai, Shakai. Il s'est révélé à moi, à Luz, en pays de Canaan, et il m'a béni. Et il m'a dit que je vais te faire fructifier, et tu vas devenir Netaticha Likahal Amim. Je ferai de toi une assemblée de peuples. C'est intéressant comme expression, assemblée de peuples. Donc Hachem a annoncé à Abraham, à Yaakov Avinu que le clan d'Israël ne serait pas un peuple. Il serait une assemblée de peuples. Alors, assemblée de peuples. Bon, moi, c'est facile. Ce qui me vient à l'esprit naturellement, c'est la Suisse, quoi. C'est clair. C'est une confédération, assemblée de peuples. Un certain nombre de cantons qui se sont associés ensemble. Petit à petit, ils ont constitué la Suisse. Mais vous avez la même idée L'Amérique aussi, c'est un ensemble d'États. Le Mexique, c'est aussi un ensemble d'États. C'est-à-dire, il y a des peuples qui ne sont pas un peuple, qui sont une assemblée de peuples. En particulier, c'est le cas du clan d'Israël. Ça fait tout de suite penser à ce qui va se passer un peu plus tard. C'est que quand Yaakov sera sur son lit de mort, et que les enfants seront autour de lui, les 12 fils de Yaakov seront autour de lui, et Yaakov va dire, j'ai échoué, je devais fabriquer un peuple, et je vois 12 peuples devant moi. Alors, vous connaissez la réponse des fils de Yaakov. Bon, c'est une des phrases les plus célèbres. Ils lui ont dit, Shema Israël, écoute Israël, c'est-à-dire ils s'adressent à leur père. C'est intéressant que eux, ils l'appellent Israël à ce moment-là. Et ils lui disent, Hachem Elokeinu. Ton problème, c'est Hachem Elokeinu, c'est-à-dire Hachem est notre Dieu. Ça veut dire il est le Dieu de chacun d'entre nous. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous perçoit Hachem à sa manière. Bon, et Hachem nous traite aussi d'une manière différente les uns des autres. Le rapport de Yehuda avec Hachem n'est probablement pas le même que le rapport d'Éphraïm avec Hachem, etc. Chacun reçoit, Hachem accepte de jouer le rôle d'Elohim pour lui, pour ce peuple. Donc ils lui disent, c'est vrai que Hachem est Elokeinu. Mais malgré cela, malgré qu'il joue des rôles différents pour nous. Néanmoins, Hachem est Echad. Nous savons très bien que Hachem est Echad. Malgré que il intervient comme Elohim de chacun d'entre nous, donc avec la spécificité de chacun, ben quand on dit Elohim Avraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yaakov, on n'est pas en train de dire trois fois la même chose. Il y a Elohim Avraham. C'est un type de relation avec Abraham. Par exemple, Magen Abraham, il n'y a pas Magen Yitzhak ni Magen Yaakov. Il y a Magen Abraham. Et donc, quand il est l'Okim de différents peuples, bon, il faut dire, ce que je m'excuse, mais j'ai déjà dit souvent, mais il faut pas prendre. Je dis comme ça. Akadosh Baruch Hu, c'est déjà, c'est pas bon. Ou Itbarach, il faut dire comme ça. Ou Itbarach, c'est déjà aussi un abus de langage, mais Ou Itbarach, il n'a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Un nom, votre nom, il y a vous et il y a un nom. Il se peut très bien qu'on vous ait donné un nom à la naissance et qu'ensuite, toute votre vie, vous allez circuler avec un autre nom, qui soit peut-être aussi un surnom ou un petit nom ou une convention. Et les relations souvent entre, je sais pas, entre un homme et une femme, un homme, ils se donnent des noms qui sont les noms qui se donnent dans leur relation. C'est comme ça, nous avons une personnalité. Et puis il y a un nom, c'est simplement une convention. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle dans son club de foot. Mais au Beit HaMidrash, on l'appelle autrement. Hachem n'a pas de nom. Parce qu'il n'y a pas Hachem et un nom, si vous voulez, qui serait le nom d'Hachem. Enfin, même Hachem, excusez-moi, Hachem, c'est pas non plus bon. On peut rien dire sur Hachem, donc c'est très difficile de parler. En général, on dit Hu Yidbar. Alors, quand on dit qu'il est Elokei nous, et donc ils ont tous répondu, chacun a dit, il est Elokim, Reuven a dit, c'est Elokim chez l'anou. L'anou, il veut dire, c'est notre Elokim à nous, tribu de Reuven. Ils disent, en vérité, malgré que il apparaît, c'est-à-dire, il se conduit avec nous. C'est-à-dire, il nous dirige d'une certaine manière, qui est une manière différente selon qu'il dirige la tribu de Reuven ou la tribu de Issachar ou de Zvouloun. Mais nous savons qu'il est Echad. Il est un. D'un un qui est incomparable, un qu'on ne peut pas fractionner, etc. L'un par excellence. Et donc, il y a une notion de peuple, là non plus, c'est un peuple qui est en réalité, le peuple d'Israël est en réalité ce qui a été dit à Yaakov Avinu, ce sera une assemblée de peuples. Et c'est pour ça que je m'étais toujours demandé. Au fond, d'accord, on est parti avec des tribus. Mais quand on est arrivé en Eretz Israël, pourquoi est-ce on a partagé Eretz Israël en tribus? Est-ce qu'on n'aurait pas obtenu une unité plus grande si on est mélangé, les gens, finalement, après une ou deux générations? Voilà, c'est un melting pot complet. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a de nouveau tenu compte des tribus, dans le partage d'Eretz Israël, et d'une certaine manière, toute l'histoire du clan Israël est une histoire de tribus, finalement. Alors je pense que c'est aussi une garantie de diversité. C'est-à-dire, en fait, ça permet d'être beaucoup plus vivant que si on était tous sur le même modèle. C'est pour ça, donc, si c'est ce qui a été annoncé, donc ça veut dire que c'était bien pour le clan d'Israël. Et donc, oui.
Quelle est la différence la façon dont Hachem et les différentes tribus et quand on le perçoit à travers ces différentes façons de gouverner. Quand on le perçoit à travers ces différentes façons de gouverner. Ou à travers
Mais c'est le problème, c'est qu'avec HM, le problème, c'est que nous, on a l'habitude, d'accord? Vous avez un groupe d'amis. Alors, vous savez, ces personnes-là, elles se conduisent d'une telle et telle manière, bon. C'est normal, tout le monde vient de tel et tel endroit, à cet endroit-là, on se conduit comme ça. Donc on pouvait inférer de certaines conduites, on peut inférer quelque chose sur la personnalité de celui qui se conduit de cette manière-là. Par rapport à Hachem, on ne peut pas remonter. On ne connaît d'Hachem que la façon dont il gouverne le monde, ou les façons dont il gouverne le monde, qui donne lieu à ce que les gens prennent pour être des noms divins, mais qui ne sont pas des noms divins, parce que Hachem, il est évident que Hachem n'est pas Rahoum, il n'est pas Hanoun, il n'est pas, c'est, on n'a pas, il n'a pas d'attribut Hachem. Il est, on peut rien dire du tout, on peut rien dire. C'est transcendance, il n'y a pas de mots pour décrire la chose. Il y a des anagotes quand Hachem s'occupe du monde, qui est une occupation parmi d'autres occupations qu'on ne connaît pas d'Hachem, ou peut-être aucune occupation, je ne sais pas. Et voilà, il se conduit d'une certaine manière, il se conduit en nous envoyant en galoute, il se conduit en nous permettant de construire le Beth-Amikdash, etc. Il y a toutes sortes de façons, mais d'aucune manière nous pouvons dire que, puisqu'il se conduit comme ça, c'est qu'il a cette mida ou etc. Il n'y a pas de midot d'Hachem. On n'a pas le droit de parler comme ça. Le problème, c'est que ça déborde souvent parce qu'on ne sait pas parler autrement. Et maintenant, alors ici, Yaakov fait un truc incroyable. Yaakov Avinu ici, au Passouk 5, il dit, Ata, et maintenant, Shne banecha noladim lecha be'eretz Mitzrayim, ad boi elecha, Mitzrayima, lihem. Je te prends tes deux enfants, ils sont à moi. Non seulement il les prend, vous voyez, il n'a jamais demandé à Yosef s'il était d'accord. Je te prends tes enfants. Ils sont à moi maintenant. Et puis, pour que ça soit bien clair, Ephraim et Ménaché, pour moi, ils seront qui Reuven et Shimon, Yuli. Je vais mettre Ephraim et Ménaché à la même hauteur que Reuven et Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a demandé à Reuven et Shimon s'ils étaient d'accord qu'on mette leur neveu à la même hauteur qu'eux? C'est quoi ce truc? Il y a des règles d'héritage. De quel droit est-ce que Yaakov modifie son héritage? On va maintenant partager l'héritage de Yaakov en 12 tribus, c'est-à-dire des tribus qui sont les fils de Jacob, et puis deux petits-fils. Et on va enlever Yosef et le remplacer par deux de ses fils. Voilà, ces deux fils, on ne connaît pas les autres. On ne sait pas s'il y en a d'autres. Un coup de spa, un coup de force. Ni il a demandé à Yosef s'il était d'accord, ni il a demandé aux autres frères s'ils sont d'accord qu'on mette de leurs neveux à la même hauteur qu'eux. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, il cite les deux enfants de Yosef. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai fait remarquer que quand Yosef parle de ses fils, il parle de Ménaché. Et Ephraïm, qu'est-ce que fait Yaakov? Ephraïm ou Menaché? Il inverse l'ordre. Il fait ce qu'il veut, il bouscule les générations, il bouscule l'ordre de naissance. Je vous rappelle que ce que fait Yaakov ici, c'est la construction du clan d'Israël. C'est-à-dire, on construit un peuple en commençant par tout bouleverser. C'est vrai que Jacob avait commencé par là. Parce que quand il a acheté la Bechora à Ésav, il a fait quelque chose qui n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire, Bechor? Bechor, c'est qu'il est le premier à avoir ouvert les voies basses chez sa mère. On veut exclure par là la césarienne. On peut dire à quelqu'un, désormais c'est toi le grand. Celui qui est sorti le premier du ventre de sa mère, ben il est sorti le premier. Ça ne peut pas s'acheter. Et pourtant, Jacob l'a acheté. Mais en fait, Chazal nous explique que Yaakov, lui, il se fiche pas mal de savoir qui est né le premier. Le problème du Bechor, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique dans la vie d'être Bechor? Le Bechor, Ça va être, c'est celui, c'est ce qu'explique Yaakov à Essav. C'est que le Bechor, il est en charge d'étudier la Torah, quoi que soit la Torah à ce moment-là, d'étudier la Torah et de l'enseigner aux autres. Et il est en charge de faire la avoda. C'est-à-dire, quand on veut faire un korban, c'est lui qui doit faire les korban. C'est ça la fonction du Bechor. Et c'est ça qu'il explique à Esav en lui ajoutant que, bon, dans tout ce qu'on doit faire, dans la Avoda, etc., il y a quand même des risques. Si on fait les choses de travers, on peut même être passible de mort. Si vous mangez du notar, ou si, etc., ou du pigoule, etc., vous êtes passible de mort. Alors bon, alors il y a que, bon, vous savez bien, Essam lui a dit, écoute, moi je vis déjà assez dangereusement comme ça, j'ai pas besoin de tes petits trucs là, mais bien sûr, je te le vends. Pour moi, j'ai fait une bonne affaire, si pour ça j'ai droit à une assiette de lentilles, je suis gagnant. Et donc, Yaakov, il commence tout de suite par... On prend le mot Bechor, mais ça ne veut plus dire Bechor. Et là, il fait, voilà, il chamboule tout. L'ordre de naissance, aucune importance. La différence entre un oncle et entre un homme et son neveu, changement de génération, aucune importance. Il fait mamache ce qu'il veut. Il lui dit, en fait, les enfants que tu aurais après cela, ok, ils sont à toi. Ceux-là, je ne les prends pas. Il est sympa, quoi. Il lui laisse ses propres enfants. Tu peux les garder. Et alors, il lui dit, il ajoute, Vaani, quant à moi, Bevoïm et Padan, quand je suis revenu de Padan, c'est-à-dire je suis revenu de chez Lavan, Meta alai Rachel, Be'eretz Kenan, Baderech Be'od, Kivrat Eretz Lavo Efrata, Veg Berea, Sham, Bederech Efrat, Ibet Lachem. Et quant à moi, quand je suis revenu de chez Lavan, Rachel est morte. Dans le pays de Canaan, on était sur le chemin, on était presque arrivé à Ephrath. Ephrath, c'est Bethléem. On était presque en Eretz Israël. On n'était pas encore complètement en Eretz Israël, mais juste à la frontière. Elle est morte là-bas. Et moi, je ne l'ai pas transportée en Eretz Israël. J'aurais pu la transporter, l'enterrer à Hebron. Je ne l'ai pas fait, je l'ai enterrée sur place, comme une espèce de maître mitzvah. Enterré sur place. Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'il lui dit, je sais très bien que je te demande de m'enterrer, alors que je ne l'ai pas fait pour ta mère. Donc tu pourrais très bien m'en vouloir et dire, écoute, tu me demandes quelque chose que tu n'as pas fait pour ma mère, je n'ai pas de raison que je le fasse pour toi. Alors, dans ce verset-là, il va lui expliquer. Pourquoi il n'a pas pu, etc. Donc, ne me veux, ce passage veut dire ne m'en veux pas, j'ai pas pu, je ne pouvais pas. Alors, bien sûr, à part ça, le fait que Rachel soit enterrée à cet endroit-là, ça va servir pour la suite, parce que c'est elle qui va prier pour que les Bnei Israël qui partent en galoute reviennent, et on est revenu grâce à elle, d'une certaine manière. Et donc, ça, c'est ce qu'il a fait là. Et puis, alors, à ce moment-là, je vous rappelle que Yosef est venu avec ses fils chez Yaakov. Alors, il lève les yeux et il dit, c'est qui ces deux-là? Yaakov, il est en Égypte depuis 17 ans. Depuis 17 ans, il a une chavruta avec Ephraïm. Il demande qui il est. fait 17 ans qu'il en a avec lui. Alors, bien sûr, c'est pas qu'il demande qui il est. Il dit à ce moment, tout à coup maintenant, il se demande, est-ce que ces enfants-là, ils sont cachers? C'est qui ta femme? C'est quoi ton lien avec elle? T'as fait un vrai mariage avec elle? Tu lui as donné des kiddushin? Alors, le Midrash dit que Yosef, il lui a amené la ktouba de sa femme. Ne me demandez pas qui étaient les témoins. D'accord? Il n'y avait pas à ce moment-là. Comme vous savez, la femme, on sait qui c'était, c'est Osnat bat Potiphéra. Bon, a priori, c'est Osnat la fille de Potiphar. Sauf que Potiphar, comme tous les princes au service de Paro, il a été castré. Et donc Potiphar, il n'a pas d'enfant. Et Madame Potiphar, donc, n'a pas d'enfant. Et donc, en vérité, elle a adopté une petite fille. La petite fille qu'elle a adoptée, c'était une étrangère. Cette étrangère-là, nous, on la connaît. On la connaît parce qu'il s'est passé un... quelque chose, il ne faut pas raconter ça à n'importe qui, mais Yaakov Avinu, quand Dina a été violée, Dina, elle a eu un enfant. Dina, elle a eu une fille. Et Yaakov, il ne voulait pas que la fille de Dina se tourne là. Je sais pas. Ça lui plaisait pas. Alors il a envoyé dit, cette fille-là, il l'a envoyée en Égypte. Et pour la protéger, il lui a écrit une amulette dans laquelle il y avait son nom, Osnat. Quelle est Bat Dina, la fille de Dina. Et c'est cette fille-là qui a été adoptée par Madame Potiphar. Paro, quand il a nommé Yosef, il a dit, tu ne peux pas être vice-roi si tu n'as pas une femme. Ça. Donc voilà, moi, Paro, je te marie, quoi. Avec Osnat, la fille de chez Potiphar. C'est une fille adoptive, mais ça n'a pas d'importance. Elle est de la maison de Potiphar, qui était un prince très important. Alors, c'est Paro qui a fait le chidouch, hein. Alors, est-ce que... Comment Yosef a su qui elle était? Elle avait une amulette. Je ne sais pas du tout si elle savait qui elle était. Je ne sais pas à quel âge il l'a envoyée en Égypte. Il a peut-être envoyé en Égypte tout de suite. Mais en tout cas, elle avait une amulette. Et Yosef, il a lu. Donc il savait que c'était sa nièce. Alors même si c'est Paro qui a fait le chidour, il a très bien pu lui donner des kiddushin. C'est juste que je ne sais pas qui pouvait être les témoins là-bas, à ce moment-là. Et que un mariage sans témoin, cachère, ça marche pas. Je connais pas d'explication de comment était le mariage. La vérité, c'est un problème à tous les niveaux ici, donc. À l'époque des Avot, à qui étaient les témoins, etc.
Ils étaient obligés à cette époque-là.
Non, alors probablement que ça se faisait autrement, je ne sais pas. C'est juste que on dit qu'il a fait des kiddushin. Oui, mais on dit que c'est la question que Yaakov a demandé. Quand il demande qui ils sont, Il sait très bien que c'est les fils de Yosef, mais il demande, c'est quoi le pédigré complet là de ces garçons? Alors Yosef lui a dit, il lui répond, que nous, ce que je vous ai traduit parce que le Midrash dit comme ça, qu'il lui a répondu, il lui a dit, pardon. Vayomer Yosef el Aviv, au verset 7, verset 9. Banaihem, Asher Natan li Elohim Bazeh. Donc, quand il a dit c'est Elohim qui me les a donnés, en Égypte, ici, ça voulait dire c'est Elohim qui me les a donnés, donc c'est cachère. Rachid dit, Era lo shtar erusin, ou shtar Alors Yaakov, bon, ok, prends-les, je vais les bénir. Alors ça, c'est pas fini. Il traque. Yaakov, il y voit plus très clair à ce moment-là. Alors, il dit à Yosef, ah, c'est extraordinaire, je pensais jamais te revoir, et maintenant je vois non seulement, je te vois toi, mais Elohim m'a fait que je vois aussi ta descendance. Alors Yosef a pris ses enfants, et il les a placés pour que Jacob puisse les bénir. Alors, bien entendu, il a mis l'aîné de telle sorte que la main droite de Jacob soit sur la tête de l'aîné, et le deuxième pour que la main gauche soit sur la tête du deuxième, d'Éphraïm. Et bon, très bien. Alors, qu'est-ce que fait Jacob? Il croise les bras. Il prend sa main droite et il la pose sur la tête d'Éphraïm. Alors son fils lui dit, mais non, pas, c'est pas comme ça, papa. Il dit, je sais. D'accord, Menaché, il va devenir aussi un grand bonhomme, mais l'autre, il sera plus grand. Est-ce qu'il le sait par nevoua, ou bien est-ce que c'est lui, il a décidé qu'il allait être plus grand? Je ne sais pas. Éphraïm va être effectivement la tribu dominante. Alors quand il va y avoir le schisme, à l'époque de Rehovam, après Shlomo HaMelech, le fameux royaume du Nord, le royaume d'Israël, la tribu dominante et le premier roi, Jéroboam, c'est Éphraïm. C'est la tribu d'Éphraïm. Et Ménaché, c'est étrange parce que Ménaché va être une tribu partagée en deux. On peut dire d'une certaine manière, c'est la tribu qui fait le joint entre les deux. Il y a une moitié de Ménaché qui appartient au royaume de Yehuda, royaume du sud, là, et une moitié au royaume du nord. Ça n'existe pas pour les autres tribus. En quelque part, la grandeur de ce Ménaché, c'est que lui fait le joint. Il a des gens. Il y a des gens dans les deux royaumes. Et donc, il donne les brachot. Et effectivement, nous, on continue effectivement sur le même mode, parce que nous, on donne les brachot comme Yaakov. On dit, on donne une bracha, on dit Ephraim avant Menaché. Donc, tout ça pour dire que ce clan d'Israël, il se construit de façon assez extraordinaire, c'est-à-dire en violation des lois naturelles, en quelque sorte. Violation qui est faite par le patron, par Yaakov Avinu. Alors juste un mot, je sais que j'ai dépassé l'heure, mais la paracha de Vayechi, elle est stouma. Elle est fermée. Fermée au sens où, normalement, entre deux parchiotes, il y a au moins un espace de 9 lettres. Et on va, le début d'une paracha, c'est toujours au début de la ligne. Et elle, cette paracha-là, entre la fin de Vaïgash, de Vaïgash et Vaïchi, il n'y a pas d'espace. C'est comme si on continue, comme si on était en plein milieu de la paracha de Vaïgash. Alors, il y a toutes sortes d'explications sur pourquoi est-ce que la paracha, elle est fermée. Et une qui est très importante, c'est que il y a une notion de fermeture qui est en fait la fermeture de l'inspiration de Yaakov. Yaakov, à la fin de sa vie, il veut donner à ses fils une super information. Il va leur dire quand finira le galout. Il y aura un galout, et quand est-ce qu'il va finir? Quand viendra le Mashiach, en d'autres termes? Donc, il les convoque pour leur dire ça. Mais quand ils arrivent, ils ne s'en rappellent pas. Ça s'est fermé. Ce qui s'était ouvert, qui lui avait dévoilé quelque chose, quand il a voulu le dire, ça s'est refermé. Et la paracha, la structure de la paracha nous dit cela. Bon, alors tout ça, c'est très intéressant. Il faut dire la vérité, c'est que les parchiotes telles que nous les lisons, elles sont comme elles sont, parce qu'un jour, on a décidé qu'on allait lire la Torah en une année. Et donc on a partagé la Torah de telle sorte qu'on lise un morceau chaque semaine. Auparavant, il y a eu un moment où on lisait la Torah en 3 ans. Donc toutes ces drachotes-là sur paracha fermée, ouverte, etc., c'est pas sûr du tout que ça pouvait se présenter de cette même manière. Mais ça n'a pas d'importance parce que nous, on vit avec la Torah. Et l'organisation de la lecture de la Torah qui fait partie de la vie du clan Israël. C'est-à-dire qu'il y a du sens qui vient et qui est donné par notre façon à nous de vivre les choses. Puisque nous, on lit en une année, alors il y a des choses qui se dévoilent, qui étaient, on peut très bien dire, ces choses-là étaient dans la Torah, mais n'étaient pas visibles. Tant qu'on l'a lu en 3 ans, elles deviennent visibles parce que les circonstances, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, a fait en sorte, en partie parce qu'on s'est conduit de cette manière-là plutôt que d'une autre manière, qu'on lise la Torah, on décide de lire la Torah en une année seulement.
Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, on pourra lire la Torah entre nous?
Peut-être, oui, il
C'est
n'y a
nous.
absolument aucune loi qui oblige à lire. Simchat Torah, ce n'est pas une fête de la Torah.
Des choses sont apparues quand on a changé le mode de découpage de la Torah, c'est ça?
Il y a des choses qui apparaissent, qui n'ont apparu que grâce à ce découpage-là, mais le découpage, il fait partie disons de l'ADN actuel du clan Israël, qui est un ADN qui a pu changer au cours c'est pas c'est ça c'est pas il y a beaucoup de choses qui vont pas bouger, mais ça par exemple ça peut bouger.
C'est-à-dire que quand ma chère viendra, il va nous dévoiler des à la fois.
C'est Eliyahu HaNavi qui va faire le job, oui.
Et Donc, ça peut, je ne sais pas, vous dire ça, se découper.
Alors, je ne sais pas, j'en sais rien. Je vous dis seulement que historiquement, il y avait un moment où on a lu en 3 ans, donc c'est pas sûr que il y avait cette
Et qui a décidé?
Rachamim de l'époque. Je sais plus exactement quand on a décidé, c'est il y a longtemps, quand on a décidé de lire en une année. Et on a décidé de faire Simchat Torah à Shmini Atzeret, mais dans la prière, vous dites jamais Shmini Atzeret, on dit toujours Shmini Atzeret, on dit jamais Simchat Torah. Pardon? Je suis désolé, je suis à moitié sourd. Si tu cries pas plus fort, j'entendrai rien.
Mais savoir qu'est-ce qu'on entend nous par cette différence de perception que chacun a. Qu'est-ce que ça nous dit?
C'est une différence de perception de
Non.
des chiffres des tribus et l'Okaï. Ouais. Chacun ressent qu'Hachem se manifeste dans sa vie d'une certaine manière. Je sens la Shgaha Pratit, d'accord? D'une certaine manière, c'est pas sûr du tout que même Rachel sente la même chose que moi. Certaines choses, peut-être oui, d'autres choses. Ouais, c'est sûr que je m'excuse, mais je ne pense pas que je ressente la même chose que toi. J'ai une façon de ressentir l'intervention divine dans ma vie. Je ne sais pas si toi, tu la ressens de la même manière. D'abord, c'est difficile de communiquer ce genre de choses, mais a priori, il n'y a pas de raison que on ressente de la même manière. On n'a pas la même trajectoire, on n'a pas la même histoire, on n'est pas né sous la même étoile, si on peut parler comme ça. Les seuls qui sont nés sous la même étoile, et de ce point de vue-là, c'est intéressant en soi, c'est les jumeaux. Parce qu'il y a une différence. C'est la semaine dernière, on a lu que dans les descendants de... Si quelqu'un doit partir, vous pouvez partir. On a lu que dans la descendance de Shimon, il y avait quelqu'un qui s'appelle Shaoul ben Aknaani, ben Aknaanit. La Cananéenne, en l'occurrence, là-bas, c'est Dina, qui s'appelle Cananéenne parce qu'elle a été violée par un Cananéen. Et alors le problème, c'est Shaoul. Il est dans la descendance de Shimon. Alors Rachi sur place dit que quand Shimon et Lévi ont massacré les gens de Shechem, ils ont aussi massacré le violeur de Dina. Et Dina, elle voulait pas sortir de la maison de Shechem. Pour toutes sortes de raisons, en particulier, elle avait honte. Ouais. Bon, finalement, tout le monde va dire, ah, c'est celle-là qui a été violée, etc. Donc, il y a eu un rapport avec le Cananéen, etc. Elle voulait pas sortir. Alors, Shimon lui a promis qu'il allait l'épouser. Donc, Shimon a épousé Dina, a priori. Et le problème, c'est que ce Shaoul ben Aknaanit, est-ce que c'est l'enfant de Shimon, ou est-ce que Dina a eu des jumeaux, dans la mesure où la Osnat, c'est déjà sa fille, et si Shaoul, c'est aussi son fils, alors est-ce qu'elle les a eus sous forme de jumeaux, parce qu'a priori, elle n'a pas eu le temps, elle n'est pas restée si longtemps dans la maison de Shrem pour qu'elle ait eu deux accouchements. Et donc, c'est les jumeaux. Si vous regardez dans le texte, à côté de ce Rashi, c'est marqué en parenthèse Midrash Rabba. Et quand on regarde le Midrash Rabba, il ne dit pas du tout ce que dit Rashi. Le Midrash Rabba, on peut lire en tout cas dans le Midrash Rabba plus ou moins, c'est pas non plus très clair, qu'en fait, l'enfant est un enfant de Shrem et que Shimon a adopté cet enfant de Dina, quand il a épousé Dina. C'est pas ce que Rachid dit. Je pense que dans le Midrash, il n'était pas très, très heureux de présenter, quand Shimon épouse sa sœur, l'enfant est un mamzer. On n'a pas le droit d'épouser sa sœur. Alors, il n'a pas voulu, le Midrash, il veut pas. Il préfère le faire passer comme étant un enfant d'un goy, fruit du viol, plutôt que de le présenter comme un mamzer. Mais c'est complètement ridicule. Tous les Shvatim sont nés avec une jumelle. Et tous les Shvatim ont épousé leurs jumelles. Et d'après si on va d'après ça, tous les enfants des Shvatim étaient des Mamzerim. Et si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez vraiment être choqué, ouais, alors Moshe, Aaron et Myriam, c'est aussi des Mamzerim. Parce qu'Amram n'avait pas le droit d'épouser sa tante. Donc, les enfants sont les Mamzerim. Ils ne sont pas les Mamzerim parce que tout ça, c'était avant Matan Torah. Et avant Matan Torah, la raison pour laquelle la Torah n'a pas été donnée, et certains le disent, pourquoi la Torah n'a pas été donnée à Avraham Avinu, pour que justement certaines choses puissent se faire. Autrement, c'est-à-dire que les avots, disons grossièrement, les avots, quand ils pensaient que selon dans le langage la racine de leur neshama leur disait que il fallait qu'ils se marient, la racine de la neshama de Yaakov lui a dit pour construire le clan d'Israël, il fallait qu'il épouse Léa et Rachel. Et la Neshama de Amram lui a dit que pour construire les Parnessim, les grands patrons du clan d'Israël qui sort d'Égypte, il fallait qu'il épouse sa tante, qui était déjà un grand vieillard d'ailleurs. N'oubliez pas, Yocheved a eu Moshe, donc elle a eu à Aaron et Myriam aussi dans ces eaux-là, à 130 ans. Et Amram, il était la génération d'après, il était beaucoup plus jeune. Donc tout ça, c'est un peu ridicule de pas d'entrer dans ces considérations. Il a épousé sa sœur, et c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, et voilà, et ça se faisait pas couramment. Alors je voulais dire, la raison pour laquelle on est arrivé là-dessus, c'est parce que je voulais dire que d'une certaine manière, épouser sa sœur ou épouser sa jumelle, c'est pas la même chose. Et la jumelle, c'est aussi sa sœur, mais la jumelle, c'est une moitié de, c'est quelqu'un qui a été conçu au même moment. La sœur, elle a été conçue quelques mois plus tard, au moins. D'accord? Épouser sa sœur. Ils n'ont pas été conçus ensemble s'ils ne sont pas jumeaux. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Parce que épouser sa jumelle, c'est épouser une partie de soi-même, c'est refaire une espèce d'unité qui aurait pu. D'accord? Dans ce rapport qu'il y a eu entre les parents des jumeaux, il n'aurait pu se trouver qu'il y ait qu'un seul enfant dans ce rapport, qui soit issu de ce rapport-là. Il s'est trouvé que ça s'est séparé en deux, ça a donné deux moitiés quelque part.
C'est de même, pas de moitié.
Pardon?
C'est de même, pas de
Oui,
moitié.
non, oui, mais c'est deux moitiés de deux moitiés d'un tout.
C'est pas des vrais jumeaux. Car...
Non, non, c'est pas non plus des vrais jumeaux complètement. Mais malgré tout, c'est pas la même chose qu'un frère et une sœur, me semble-t-il. Disons, on peut faire la différence.
C'est deux vrais jumeaux. À ce moment-là, c'est deux mêmes. Et on dit qu'Hachem ne fait, qu'il fait pas de choses identiques.
Tu?
Chacun son esprit.
Même les jumeaux sont pas complètement identiques.
Deux mêmes.
C'est pas deux complètement mêmes. Même des vrais jumeaux sont pas complètement identiques. Pardon? Oui, quelque part, deux jumeaux, c'est reconstituer une unité qui aurait pu être une unité. Ça aurait pu n'être qu'un seul enfant. Ça n'a de... C'est ce rapport-là avec cette gamète-là avec cette... Ça aurait pu donner un enfant. Ça en a donné deux.
Dans le ventre de la mère, sont dans la même poche,
Ouais.
donc ils sont unis.
Ils sont vraiment unis. Et donc on reconstitue cette unité-là. Ça n'est pas le cas avec une sœur.
Dans la relation de chacun, on reconstitue l'unité.
Par rapport à Hachem, mais aussi par rapport aux autres, par rapport. Je ne sais pas quelle différence ça fait concrètement. Halakhiquement, ça fait aussi un mamzer, oui, a priori.
Mais ils ont les mêmes gamètes, ils sont créés par les mêmes gamètes et ils ont les mêmes influences astrales. Et ça a une
Justement,
importance.
c'est ça que je vous ai dit.
Ça,
C'était conçu mais au même moment exactement. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement astral, c'est le même moment de la vie des parents. Ils en sont exactement au même moment. On ne sait pas que les parents, ils peuvent, entre le moment où ils ont conçu l'un et vont concevoir l'autre, d'accord, le frère, la sœur, par exemple, d'accord, ils peuvent avoir changé complètement de paysage, ils peuvent, peut-être qu'entre-temps, ils se sont débrouillés, rabibochés, ils ont pu divorcer, se remarier entre-temps. Et on peut faire beaucoup de choses. C'est quand même un laps de temps assez important.
Les sacs sont quand même des jumeaux aussi bien différents.
Oui, mais je ne sais pas dans quelle mesure ils sont vraiment des jumeaux, parce qu'ils sont décrits comme tout sauf des jumeaux. À la naissance, ils ressemblent pas du tout l'un à l'autre. Il y en a un qui est fini et l'autre, il ne l'est pas. Il y en a un qui est glabre et l'autre qui est une forêt vierge, quoi. Voilà, c'est juste une remarque.
Donc on lit les lignes pour Claire aussi, on fait pareil.
Vous pouvez faire les télims pour Claire aussi, oui.
C'est comme...